Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la maturité spirituelle dans le royaume de Dieu?
La maturité spirituelle.
Ah, c'est un chapitre très important qu'on a ouvert la semaine dernière. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 9, qui est notre verset de base. Donc, j'espère que Dieu m'accordera la grâce de dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. On va essayer de finir vraiment à midi. 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 9. La maturité spirituelle dans le royaume de Dieu. C'est très, très, très important comme sujet. Parce que quand on ouvre la Bible et qu'on commence à parcourir la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, on se rend compte que c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 9. Il est écrit: nous sommes contents de paraître faibles, pourvu que vous soyez réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Dis avec moi la maturité spirituelle.
La maturité spirituelle.
La version Louis II dit la même chose, mais d'une autre manière. Elle dit: nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Dis avec moi le perfectionnement.
Le perfectionnement.
C'est ce à quoi Dieu aspire le plus. Que nous arrivions à la perfection. Que nous soyons parfaits comme son Fils Jésus-Christ est parfait. Nous avons ouvert ce chapitre la semaine dernière, la maturité spirituelle dans le royaume. Et la semaine dernière, nous avons parlé de comprendre le but et la signification de la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce point-là. La croissance spirituelle, dis avec moi la croissance spirituelle. Prérequis pour être un disciple exemplaire de Christ. Dis avec moi, prérequis pour être un disciple
exemplaire
de Christ. Parce que Jésus, il y en a, je les vois, ils sourient déjà. Parce que ça, là, ce sont des mots très sensibles. Hein. Un disciple exemplaire. Tu sais, Jésus a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations quoi? Des quoi? Des disciples. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, tu peux dire je suis un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux répondre oui à cette question? Il y en a qui vont certainement de manière précipitée répondre oui, sans savoir réellement ce que c'est qu'un disciple. Parce que je ne suis pas en train de dire chrétien, je suis en train de dire disciple. Parce que des chrétiens, ça pullule. Des disciples, c'est autre chose. Amen. Donc la semaine dernière, on a un peu introduit ce sujet sur lequel je nous ai dit qu'on va rester pendant un certain temps. Parce que tous les sujets qu'on a abordés durant les mois précédents nous ont préparés à ce sujet-là. Tous les sujets. Ce sujet-là est extrêmement important. Celui de la croissance spirituelle. Dis avec moi la croissance spirituelle,
la maturité spirituelle.
Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? J'ai dit que parmi toutes les prières que Paul a faites, c'est cette prière-là qui est très importante. Il dit, ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, c'est que vous parveniez à la véritable maturité spirituelle. C'est quoi la véritable maturité spirituelle? La maturité spirituelle, juste pour de manière très rapide, on a dit que c'était, si je retrouve mon passage, c'était, comment dire ça? La capacité à comprendre l'enseignement de Jésus-Christ et à le mettre en pratique dans notre vie, à le suivre, à y obéir et à le transmettre. Voici ce qui fait un véritable disciple. La maturité spirituelle, c'est ce que Dieu désire pour nous. La Bible nous montre que le but de la maturité spirituelle, le but de la croissance spirituelle, c'est qu'on devienne comme Jésus-Christ. Romains 8, 29 dit que « Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à être semblables à Jésus-Christ, qui est le premier-né de beaucoup de frères. » Nous sommes tous appelés à être comme Jésus. Donc, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, qui est né de nouveau, et quelqu'un qui doit maintenant passer sa vie à poursuivre tout le temps cette croissance spirituelle-là pour chercher à sans cesse ressembler à Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, un chrétien qui vit une vie rétrograde est un chrétien vraiment malade. Parce que ce n'est pas naturel de rétrograder, c'est naturel de grandir. Un jour, j'ai vu un film avec un acteur américain blanc. Il avait une maladie bizarre. Sa maladie, c'est que... Il est né vieux et il devenait bébé. C'est une vraie maladie. Oh. C'était un film vrai. C'était une maladie grave. Et quand il est venu au monde avec le visage d'un vieux monsieur. Et son père a paniqué, son père l'a abandonné. Son père a dit, ça c'est une malédiction ça. Quelqu'un l'a recueilli. Et dans sa vie, plus le temps passait, plus il devenait jeune. Et à la fin du film, il a fini bébé entre les mains de sa femme. C'est bizarre, hein? Ah, c'est une maladie vraiment bizarre. Et ils disent que c'était une histoire vraie. J'ai dit, ah ça. Donc, un chrétien malade qui a le croix spirituel, c'est ça. Il rétrograde. Un chrétien normal, rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui grandit. Qui est passionné de Dieu, qui cherche tout le temps à connaître le Seigneur de plus en plus. Et un chrétien qui n'est pas passionné de Jésus, il a un souci. Parce que Jésus, quand tu rencontres Jésus, le vrai Jésus, dis avec moi Jésus.
Jésus.
Dis encore Jésus.
Jésus.
Le vrai Jésus, quand tu le rencontres, gars, tu es trop passionné. Le vrai Jésus, quand tu rencontres Jésus, tu es passionné. C'est pour ça que moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais passionné. J'étais pas passionné du pasteur. Hein? Le pasteur ne me disait rien. Il enseignait bien, tout ça. Mais bon, moi, c'était Jésus. Moi, je lisais la Bible avec passion. Je voulais comprendre cette Bible-là. J'ai dit, quoi? Ce livre-là est tellement controversé. Il faut que je comprenne ce qu'il y a dedans. Je voulais connaître Jésus. J'étais comme Paul qui dit, je regarde comme de la boue tout ce que j'ai gagné à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça un vrai chrétien. C'est pas quelqu'un, il vient à l'église ou bien il est... Et puis, à la moindre occasion, boum, oh, je ne viens plus à l'église, oh, je ne prie plus. Oh, je... Hey, tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Dis avec moi, I. Le vrai Jésus, quand on le connaît, on est amoureux de lui. Il y a une chanson d'un chanteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan Butler qui fait Falling in love in Jesus. Je suis tombé amoureux de Jésus. Vous connaissez pas cette chanson? Ah, Gabonais, sortez un peu aussi. Oh. Je suis tombé amoureux de Jésus. Jésus, quand on le rencontre, on tombe amoureux. Tu as déjà vu quelqu'un qui est tombé amoureux de Jésus? Hein? Vois un peu les mamans, quand elles sont amoureuses de Jésus, là, quand elle est dans la rue ou bien quand elle est au bureau, elle calcule personne et puis elle chante, oh Jésus. La dernière fois, on était, il y a trois semaines, on était à l'hôtel Élie Cognon, on faisait le petit déjeuner des entrepreneurs. En pleine salle d'hôtel, on faisait notre petit déjeuner avec plein de clients. Il y avait une femme dans la cuisine qui chantait fort, oh Jésus, oh. J'étais là, au début, j'étais un peu gêné, j'ai dit, oh, elle aussi, vraiment. On est à l'hôtel devant les gens, comme ça. Rien à faire, elle chante sans Jésus. Tu vas l'empêcher de chanter. Elle était de bonne humeur, remplie de joie à 9h du matin. Jésus, les clés étaient là. C'est les illuminés remplis du Saint-Esprit là qui viennent encore. Oui, elle est remplie du Saint-Esprit. Au bout d'un moment, ça m'a fait sourire. Hein? Parce que j'ai reçu une pensée, est-ce que tu peux chanter comme ça là, dans la salle là? Tu peux chanter comme ça, comme elle? Vas-y, chante un peu. Moi, je n'ai pas chanté, elle est chantée. Elle était amoureuse de Jésus. Dis avec moi, je suis amoureux de Jésus. Il faut dire la vérité, hein. Je suis amoureux de Jésus. La maturité spirituelle, c'est cette poursuite-là qu'on a sans cesse d'aller vers Jésus, d'aller vers Dieu. On le cherche, on veut comprendre, on veut connaître la parole, on veut grandir, on veut croître. Quand ta vie chrétienne est ennuyante et que tu t'ennuies, il y a un souci quelque part. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que quelqu'un qui est passionné de Jésus ne peut pas s'ennuyer de sa vie chrétienne. Aller à l'église pour lui, c'est plus qu'une habitude. C'est une passion. Il va à l'église parce qu'il aime Dieu. Il ne va pas à l'église parce que c'est à côté de chez lui. Ou bien parce que le pasteur est sympa et cool. Il ne va pas à l'église pour ça. Il va à l'église parce qu'il aime Dieu. Donc quelqu'un qui dit, moi je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église, je lis ma Bible. Je me demande si tu aimes Dieu. En fait, tu n'aimes pas Dieu. Mais si j'aime Dieu, c'est pas parce que je lis plus la Bible que j'aime pas Dieu. Ah, on va en parler si tu veux. Donc, on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a dit que la plus grande joie d'un père, c'était de voir son enfant devenir mature, grandir dans les choses de la vie. Amen. Et j'ai dit également que ce que Jésus-Christ nous demande de chercher le plus, c'était le royaume. Et pour trouver le royaume, il faut grandir. Parce que c'est en fonction de la capacité que tu peux emmagasiner que tu recevras davantage de connaissances de Dieu. Si ton vase est trop petit, tu ne pourras pas recevoir beaucoup de Dieu. Mais plus tu élargis ton vase, plus tu peux recevoir. Je donne une image, c'est comme quand tu étudies à l'école. Plus tu comprends des choses et plus le professeur peut te donner des choses plus compliquées. De même, il y a des révélations de la parole de Dieu que tu ne peux pas recevoir parce que spirituellement, tu n'es pas suffisamment mature, suffisamment fort, capable de recevoir certaines choses. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, mais si vous ne comprenez pas, dans le livre de Jean, si vous ne comprenez pas les choses de la terre quand je vous parle, comment pourrais-je vous parler des choses célestes? Les petites choses que je vous enseigne là, vous ne comprenez pas ça. Et vous voulez que je vous parle des anges, vous voulez parler des extraterrestres, vous voulez parler des choses, mais vous ne comprenez pas les petites choses. Lire la Bible, tu ne connais pas ça. Même quand on t'enseigne pendant une heure lire la Bible, tu es là, tu dis, mais bon, je dois commencer par quel livre? Oh. Et puis tu veux qu'on commence à t'enseigner les choses spirituelles. C'est compliqué. C'est pour ça que Paul dit dans le livre d'Hébreux, vous êtes censé déjà être au niveau de la nourriture solide. Vous êtes censé manger de la nourriture solide, mais vous en êtes rendu encore à boire le lait des bébés. Imagine un jour, tu montes dans le taxi et puis tu vois une dame avec un monsieur et puis elle est en train de lui donner le sein. Comment tu vas réagir? Tu te dis, c'est quoi? C'est pas normal. Mais un chrétien qui ne grandit pas, c'est ça? Il en est rendu encore au lait au lieu de boire la nourriture des grands, des adultes. Il y a un souci. C'est pour cela que toutes les situations qui concernaient la maturité spirituelle, Jésus s'était toujours mis en colère. Parabole du vigneron et de sa vigne. Luc 13, à partir du verset 6, il vient chercher du fruit de sa vigne et il n'en trouva pas et se mit en colère en disant, voici 3 ans que je viens et je ne trouve toujours pas de fruit. Coupe-le et jette-le au feu. Vous voulez que je vous donne encore un autre? Jésus-Christ vint devant un arbre parce qu'il eut faim et il ne trouva pas de fruit. Et il dit, maudit sois-tu que plus jamais de fruits ne sortent de toi. C'est très important ces passages-là. Parce qu'en fait, ces passages-là, Jésus-Christ est en train de nous révéler que l'importance de croître, de grandir et de porter du fruit était quelque chose de très important pour Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir son fils grandir. Et on a également dit que quand Paul nous dit, nous demandons à Dieu dans nos prières votre perfectionnement. Le mot perfectionnement ici, je suis allé chercher ce que c'était comme mot. Dis avec moi que les choses qu'on reçoit à 3h du matin, c'est des choses auxquelles il faut prêter beaucoup d'attention. Hein? Dis avec moi 3h du matin. Voilà, 3h du matin, Dieu m'a dit perfectionnement là, tu vas leur donner ça. Perfectionnement, le mot perfectionnement derrière, c'est le mot grec que l'on prononce katartizo. Dis avec moi katartizo. Dis encore katartizo. Katartizo, qu'est-ce que ça veut dire? Katartizo veut dire terminé, produit fini, empaqueté. Il n'y a plus d'étape après, il est fini, parfait, prêt à être livré. Dis avec moi, katartizo. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est katartizo. C'est que vous soyez terminé à la stature parfaite de Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant dans cette lancée-là que l'on va évoluer. Parce que l'objectif pour Dieu, c'est qu'on devienne des disciples, qu'on soit mature, qu'on grandisse. Mon problème serait que tu sois dans cette église 3, 4, 5, 6, 7 ans et que tu sois toujours au même niveau. Ça, ce sera un gros problème pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. Soit c'est toi qui ne veux pas grandir, soit c'est nous qui faisons mal notre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Katartizo. Dis encore avec moi, katartizo. Donc, toute personne qui veut expérimenter une véritable transformation avec Dieu de son être, esprit, âme et corps, pour parvenir à la perfection, doit passer par katartizo. Catartizo répond simplement à un processus de transformation qui commence par la nouvelle naissance jusqu'à ton plein équipement. Toute personne qui marche avec Jésus-Christ est un disciple qui est en perpétuel changement, transformation. Et cette transformation, on a dit que cette transformation, elle prend du temps et elle est douloureuse. Amen. Tout ce qui est appelé à être transformé, mais qui à la base est figé, est appelé à se briser. C'est pour cela qu'il y a des domaines dans ta vie auxquels tu es très attaché, mais quand Dieu arrive, ça fait mal. Et ces domaines-là, en général, quand tu ne veux pas laisser, ça te pose toujours des problèmes. Mais katartizo, c'est cette transformation-là. C'est pour ça que le mot même est compliqué à prononcer, katartizo. C'est comme crac, crac. Tu as déjà vu le film Transformers? Voilà. Donc, quand Dieu te prend, c'est... J'ai dit quoi? J'ai dit que nous sommes un peu, comme dit Pierre dans le livre de Pierre, nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir sa maison, son édifice. Quand tu es une pierre et que tu ne veux pas te laisser transformer, mais que Dieu est décidé à te faire rentrer dans l'édifice, que tu le veux ou non, qu'est-ce qu'il fait? Il taille la pierre. Et ensuite, il te fait rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça fait mal. Mais quand tu es malléable, ça rentre tout seul. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un chrétien flexible et malléable entre les mains de Dieu qu'un chrétien têtu. Parce que les chrétiens têtus et tête brûlée, en général, ils se cassent les dents. Tu t'es déjà cassé une dent, ça fait mal. Quand tu te casses les dents, ça fait très, très mal. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, je vais insister sur la croissance spirituelle. Simplement pour nous dire quoi? Simplement pour nous dire que la croissance spirituelle est le prérequis de tout disciple. Tout disciple en Christ est appelé à croître spirituellement. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc au chapitre, je ne sais plus, au chapitre... c'est ça. Luc au chapitre 14, au verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Jésus-Christ était en train de marcher dans la rue, il marchait, et les gens le suivaient en masse. Et il s'est rendu compte que les gens le suivaient pour différentes raisons. Les gens le suivaient pour les miracles, les gens le suivaient pour manger davantage de pain, parce qu'il nourrissait les gens avec des miracles extraordinaires, etc. À bout d'un moment, il se tourne et puis il dit, bon, celui qui n'abandonne pas tout pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Donc il y a une différence entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui sont des disciples. Tu remarqueras que dans la Bible, il y a les gens à qui Jésus-Christ parlait en public, les foules, et il y a les gens à qui Jésus-Christ parlait toujours en privé, qu'on appelle les disciples. Jésus-Christ parlait toujours deux fois. Dis avec moi, deux fois. Il parlait, un, devant les foules, et ensuite il donnait la signification de ses discours en privé à ses disciples. C'est pour ça que ses disciples avaient accès à des secrets que les autres ne connaissaient pas. Il n'y a que le disciple qui a accès à la révélation. Celui qui est dans la foule ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il ne peut que voir de loin. Mais pour expérimenter la profondeur et la grâce de connaître Dieu comme on doit le connaître, il n'y a qu'un disciple. Dieu ne se révèle pas aux gens qui sont loin de lui. Dieu se révèle toujours à ceux qui sont dans son intimité. Amen. Si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Tu peux voir une femme, tu peux la trouver très très belle. Mais tu peux juste la trouver très très belle. Pour la toucher, il faut être dans son intimité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne viens pas comme ça en désordre devant tout le monde. Oh, je te touche, viens dans mes bras. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas devoir commencer un travail. Tu vas commencer à la courtiser. Tu vas commencer à te vendre. Etc. Elle va te tester. Une femme de valeur en Christ. Hein? Elle va te tester. Elle va prier. Elle va demander à Dieu. Ensuite, petit à petit, elle te laisse approcher. Mais tu ne viens pas en désordre. Dieu, c'est pareil. Il y a des gens qui entendent parler de Dieu de loin. Oh, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu fait les miracles, Dieu est génial, Dieu est grand, etc. Et puis au bout d'un moment, tu vois que ces gens-là, ils fatiguent, ils s'en vont. Parce que bon, tous les jours, on parle de ce Dieu-là, mais on ne le voit jamais, on ne l'expérimente jamais. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, dans le livre de Jean, chapitre 8, il y a des disciples qui sont partis. Ils sont partis. Et puis Jésus-Christ leur a dit, et vous ne partez pas. Il a dit, mais Seigneur, où es-tu qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire plus d'efforts pour connaître Dieu davantage. Et ça demande des efforts de grandir. Amen. Amen. Dis avec moi, catharsiso. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec le Seigneur sans renoncer, sans faire des sacrifices. Il rajoute encore dans Marc la même chose. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, là, cette histoire de renoncer, là, c'est compliqué. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Parce que quand Dieu arrive dans ta vie et te dit, bon, abandonne ça et suis-moi. Tu dis, ah, Dieu, je ne peux pas laisser ça. Le jeune homme riche vint devant Dieu, vint devant Jésus, et Jésus-Christ lui dit, laisse toute ta fortune et suis-moi. Il dit, ah, 15 ans. Imagine qu'aujourd'hui, tu as un business et puis tu as un marché. Nous sommes le premier mois de janvier et tu as un marché. Le marché, c'est 30 millions de francs CFA. Tu n'as jamais touché 30 millions de francs CFA de ta vie. Donc, la première fois que tu touches ça, tu es juste content. Tu commences déjà à faire plein de projets. Et puis, tu viens à l'église, tu as enlevé juste ta dîme, et puis tu dis, bon, tu es un bon chrétien, tu as enlevé ta dîme, tu dis, tu vas donner ta dîme. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher, le pasteur, conduit par le Saint-Esprit, dit, tu dois semer tout. Tu as entendu la voix de Dieu, et tu sais que tu dois semer tout. Parce que la parole que tu reçois te dit, sème tout pour que je te bénisse davantage. Tu dis, ah, Dieu, 30 millions. 30 millions. Parce que c'est le premier mois de l'année, donc tu dois donner le premier fruit de ton travail, etc. Non, je peux donner 10%, mais pas tout. Dieu te dit, donne tout. Qu'est-ce que tu fais? 30 millions, tu donnes. Tu as dit, pasteur, on est au Gabon. Je vais d'abord aller réfléchir. Voilà. Non, il faut tout donner. Donc, un disciple, c'est ce à quoi Jésus-Christ aspire pour chacun d'entre nous. Amen. Que veut dire être un disciple? Être un disciple, un, signifie s'engager à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ et à les transmettre à d'autres personnes. Deux, être un disciple signifie garder la parole de Christ et y obéir. Trois, être un disciple signifie être soumis totalement à son maître et lui avoir donné sa vie. Quatre, être un disciple est le résultat d'un processus de transformation qui change le disciple et l'amène à grandir dans l'enseignement de Christ. Dis avec moi, être un disciple. Et pour pouvoir être un disciple, pour pouvoir devenir un disciple, tu vas devoir entrer, accepter cette transformation-là que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Et cette transformation-là, elle commence par la parole. Dis avec moi la parole. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la seule mission que nous avons reçue. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre objectif. Une église comme la nôtre, qui n'a pas pour objectif de faire des disciples, elle est dans l'erreur. Quand tu viens à Christ, quand tu viens au Seigneur, le seul objectif de Dieu dans ta vie, c'est que tu deviennes un disciple. Que tu deviennes quelqu'un de mature spirituellement. Que tu deviennes quelqu'un qui obéisse à sa parole, qui l'applique, qui grandisse, qui commence à comprendre les choses spirituelles et qui commence à être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir amener d'autres. C'est ça un disciple. Amen. C'est très important de comprendre ça. Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous des disciples de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut dire que tous les chrétiens qui vont à l'église sont tous des disciples? Si tu veux reconnaître un disciple de Jésus-Christ, regarde sa vie. Regarde son comportement, regarde son attitude. La parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire. Soit tu es un disciple, soit tu n'es pas un disciple. Soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu es dans le monde. Soit tu obéis au commandement, soit tu n'obéis pas. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas la politique. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas centriste. Ça n'existe pas. Non, parce qu'en France, il y a maintenant les partis qui s'appellent centristes. Donc, c'est celui qui est soi-disant neutre. Non, ça n'existe pas. Tu es avec moi ou tu n'es pas contre, ou bien tu es contre moi. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 12 au verset 30, un verset que vous avez tendance souvent à passer vite. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ah! Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus? Oh, tu sais, quand on est devant les non-croyants, tu sais, il faut user de sagesse. Hein? Donc, il ne faut pas trop parler de Jésus n'importe comment. Tu sais, les gens ne comprennent pas toujours. Gars, le musulman, quand il dit, le musulman, lui, c'est son Mahomet Allah. C'est clair. On ne négocie pas, c'est pour ça. Toi, tu es où? Ah, moi, je suis dans la religion. Ah, tout le monde croit en Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, non? Non, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu es en Christ ou pas? Vous n'avez pas entendu l'histoire l'année dernière des terroristes qui avaient pris, je ne sais pas si c'était au Rwanda ou je ne sais plus dans quel pays, qui avaient pris en otage le supermarché, là, vous ne vous rappelez pas? Et puis les gens, quand les gens sortaient en courant du supermarché, ils ont juste trouvé des gens à la porte avec les armes et les gens demandaient, vous êtes chrétien ou pas chrétien? Donc les gens ne savaient pas quoi dire. Donc quand ils ont dit, on est chrétien, boum, on les a tous fusillés. Vous ne vous rappelez pas de l'histoire là? L'année dernière, ça fait ça, on en a beaucoup parlé dans l'actualité. Donc, quand les autres qui sortaient du supermarché arrivaient ensuite derrière, on leur dit, faut dire que vous n'êtes pas chrétien. Sinon, donc, il y en a qui disaient, non, on n'est pas chrétien, non, on n'est pas. Passez. Et ils laissaient passer les gens qui disaient, ils ne sont pas chrétiens. Car, en 2013, c'est arrivé ça. C'est grave, hein? Ah oui. Si quelqu'un vient dehors, là, il dit, tu es disciple de Christ ou pas, et puis il te met un flingue sur la tombe, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Souris. Souris. Je prie que ce genre de situation ne t'arrive jamais au nom de Jésus, mais t'assure que la foi, c'est ça. Il va falloir dire à Dieu que ça ne m'arrive jamais. Mais si ça arrive, il y a des pays comme en Iran, ils refusent de renier sa foi et on le pend. C'est tout le temps sur Internet. Tout le temps. Parce que ce sont de vrais disciples. Ce sont des gens qui ont abandonné leur vie pour Jésus-Christ. Et ils sont prêts à mourir pour ça. Amen. Donc beaucoup, soi-disant, sont des disciples, veulent faire la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu leur dit « faites ça pour grandir », ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas suivre les commandements de Jésus-Christ. Et malheureusement, à cause de ça, beaucoup se retrouvent dans une stagnation spirituelle et simplement parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, se retrouvent à ne pas croître spirituellement. La croissance spirituelle du disciple qui l'amène à la maturité l'amène à poser des actes qui font qu'il va de progrès en progrès. Il grandit. C'est pour ça que Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Il faut que quand les gens te regardent, il faut qu'ils constatent tes progrès. Il faut que les gens voient que tu grandisses. Tous les jours, tant d'années là, tu vas à l'église, on ne voit pas le fruit. Toujours dans les mêmes combats, toujours dans les mêmes difficultés, toujours dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes problèmes. Tu ne grandis pas. Il y a un souci quelque part. Alors, tant qu'enfant de Dieu, tu dois croître. Tu ne peux pas empêcher la croissance. Tu ne peux pas empêcher à un enfant de grandir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir sur lui, mettre la main comme ça, puis tu le dis, tu ne grandis pas. Ça n'existe pas. Même toi-même, personnellement, tu ne peux pas empêcher ta croissance. Naturellement, c'est en nous. On grandit. Et quand un enfant, quand les parents constatent que leur enfant ne grandit pas, ils vont à l'hôpital, ils demandent qu'est-ce qui ne va pas. Ses os ne poussent pas. Et un enfant qui ne grandit pas est un enfant qui est malade aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et le sujet de la croissance spirituelle est quelque chose de très, très, très sérieux. Le véritable disciple de Jésus-Christ est celui qui a accepté de suivre Jésus, d'obéir à ses enseignements, d'appliquer ses commandements, de laisser le Saint-Esprit le conduire et de grandir spirituellement. Voici l'engagement dans lequel Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Dis avec moi la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ou encore la croissance, est un principe divin. Ce que je vais dire là est quelque chose de très important. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Dis avec moi, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dis avec moi, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis avec moi encore, soyez féconds. Soyez féconds ici. Les anglophones l'ont mieux traduit dans leur Bible en écrivant « Be fruitful ». Porte du fruit. Quand Dieu a créé les végétaux, les arbres, tout ça, Genèse 1 nous montre que Dieu leur dit cela. Soyez féconds. Portez du fruit. Ensuite, Dieu crée les animaux et Dieu donne le même commandement aux animaux. Portez du fruit. Soyez féconds. Et quand Dieu arrive le sixième jour, il crée l'homme, toi et moi. Et il dit, soyez féconds. Voici le commandement que Dieu a donné à toute la création. Portez du fruit, multipliez-vous. Mais il y a une créature de Dieu qu'on appelle l'homme qui a péché. Et qui s'est retrouvé à ne plus porter du fruit normalement. Mais malgré cela, malgré tout le péché de l'homme, tous les problèmes de l'homme, Dieu a décidé, bien que Dieu ait décidé de détruire la terre au temps de Noé, bien que Dieu ait décidé d'envoyer le déluge pour détruire la terre, quand Noé sort de l'arche avec sa famille, Dieu lui dit quoi encore? Genèse 9, je crois. 9:1. Je ne sais plus où est-ce que j'ai écrit ça. Ok, c'est pas grave. Genèse 9:1 dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. À cause du péché, l'homme ne pouvait plus dominer. Donc c'est pour cela que quand Dieu dit à Noé, soyez féconds, multipliez, remplissez, il ne finit plus par assujettir et dominer. Parce que le péché était entré dans le monde, donc l'homme ne pouvait plus assujettir et dominer, comme dans le jardin d'Éden. Mais en revanche, l'homme peut toujours être fécond. Amen. Vous suivez? Donc l'homme pouvait toujours être fécond. Et il dit à Noé, soyez fécond. Et regardez ce que Jésus nous dit. Jésus-Christ, au moment de partir, donne son commandement le plus important. On va lire un peu. Ça, c'est un passage extrêmement important qu'on va prendre le temps de lire pendant quelques secondes. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 1 à 17, Jésus-Christ est en train de donner ses dernières recommandations à ses disciples. Et il ne leur dit pas n'importe quoi. Il leur donne ce discours-là, qui est un discours clé pour leur réussite. Jean 15, au verset 1, il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Dis avec moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Dis avec moi, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On continue. Il dit encore, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples, pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez, dis avec moi ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ce passage est un passage, j'ai dû lire le passage là au moins 500 fois dans ma vie. Parce que ce passage-là, il est tellement profond. Il y a tellement d'informations ici qu'il donne. Ici, c'est l'une des paroles les plus importantes de toute la vie de Jésus. Car ici, Jésus-Christ, au travers de ses paroles, est en train de nous donner le troisième commandement qui est semblable au premier commandement. Je m'explique et vous allez comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voici le second qui lui est semblable. Et quel est le troisième commandement extrêmement important qui est semblable au premier? Avant même que Dieu dise, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant même que Dieu dise, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le premier commandement que l'homme a reçu et que Dieu rappelle, c'est porte du fruit. Sois fécond. On me suit? Est-ce qu'on me suit? Parce que Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et être fécond ou encore porter du fruit commence d'abord par aimer son frère comme soi-même. C'est pour cela que Galates 5, 22 nous dit, un passage qu'on connaît très bien, mais le fruit de l'esprit, dis avec moi le fruit, pas les fruits, il n'y a qu'un seul fruit. Parce que souvent on dit les fruits de l'esprit, il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, et ce fruit de l'esprit se résume en un seul mot, amour. C'est de l'amour que sort la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la foi, etc., etc. C'est du fruit de l'esprit que découle l'amour. Et quand Dieu dit, quand Jésus-Christ nous dit, porter du fruit, c'est le plus grand commandement. Il est en train de nous dire, manifester l'amour. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ, porter du fruit et haïr ton propre frère. Ce n'est pas possible. Parce que le fruit de l'esprit commence d'abord par aimer son prochain. Amen. Si tu veux voir, si tu veux mesurer la maturité spirituelle de quelqu'un, regarde sa capacité à aimer. Si tu veux mesurer la croissance spirituelle de quelqu'un, regarde sa capacité à pardonner les autres. Regarde comment il réagit avec les autres. Regarde sa patience. Regarde sa douceur. La croissance spirituelle, la maturité spirituelle, elle se mesure d'abord là. Amen. C'est pour cela que Jean nous dit, Jean rajoute ceci, très important. Jean continue, hein, Jean avait très bien compris ce que Jésus-Christ était en train de dire. Jean rajoute, dans le premier livre de Jean, chapitre 2, versets 9 à 11, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On va encore plus loin. Jean rajoute encore ceci. Il dit au chapitre 4, verset 20, premier livre de Jean, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, dis avec moi, j'aime Dieu. » C'est ce qu'on dit tous les jours, non? J'aime Dieu. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Haïr son frère là, c'est pas dire je te hais, je te hais, c'est pas ça. C'est de voir quand quelqu'un t'a fait quelque chose, de voir comment tu le rejettes, comment tu lui parles. Comment tu parles à la personne. Ah, fous-moi le camp. Et puis tu dis tu l'aimes. Dieu dit, ça c'est la haine. Celui qui dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà où commence la maturité spirituelle. Voilà où commence la croissance spirituelle. Amen. C'est parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que tu aimeras ton frère comme toi-même et que tu porteras du fruit. Parce que le fruit de l'esprit, soit fécond, commence d'abord par l'amour envers son prochain. Et ça, c'est la chose qui guide tout disciple. On me suit? C'est la chose qui guide tout disciple. Ce passage, ce discours, on pourrait y rester toute la journée. Mais en regardant ce passage de près, voici ce qu'il faut retenir. Pour nous, les disciples, nous qui sommes censés être des disciples, j'ai relevé 10 choses à retenir là-dedans. La première chose à retenir de ce discours de Jésus, qui est très important, et je pense qu'on finira par ça, personne ne peut grandir spirituellement, premièrement, sans rester attaché à Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut croître spirituellement sans rester attaché à Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu veux porter du fruit spirituellement, tu veux grandir spirituellement, tu dois rester attaché à l'arbre. Quelqu'un qui dit, je me détache du tronc, je ne viens plus à l'église, je n'écoute plus les enseignements, je ne lis plus ma Bible, mais je suis quand même chrétien. Il vient de mettre un stop à sa croissance spirituelle. Parce qu'il y a des choses clés spirituellement qu'on doit faire dans la vie pour grandir avec le Seigneur. Un chrétien qui te dit qu'il n'a pas besoin d'aller à l'église pour croître spirituellement, c'est un menteur ou encore un bon ignorant. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas créé les églises. Si Dieu a créé les églises, a permis que les églises naissent, c'est pour un but bien précis. Si Dieu veut que l'on soit ensemble le dimanche pour célébrer la résurrection du Seigneur, c'est pour un but bien précis, ça n'a rien de religieux. C'est parce que quand on est ensemble, spirituellement, il y a des choses qui se passent. Il y a la parole qui est donnée, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la communion fraternelle, il y a l'amour, il y a les échanges, il y a le relationnel, il y a la bénédiction, etc. etc. Tout ça, ça entre en compte dans la croissance spirituelle du chrétien. Amen. C'est très important. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deux, celui qui est en Christ et qui ne grandit pas spirituellement est désagréable à Dieu. Dit, il est désagréable à Dieu. Oui. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, celui qui ne demeure pas en moi, celui qui ne demeure pas en moi, voilà, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il quoi? Il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Tu sais c'est quoi jeter dehors? S'il y a bien une chose qui met en danger spirituellement un chrétien, c'est quand il ne grandit pas. Et quand il ne grandit pas, il devient désagréable à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par « il sèche » ? Il parle ici d'une sécheresse spirituelle. Un chrétien qui ne grandit pas spirituellement, au bout d'un moment, arrive à une sécheresse spirituelle. C'est-à-dire, la parole ne rentre plus. C'est comme des chrétiens qui, tout le temps, reçoivent la parole, tout le temps entendent de bons messages, tout le temps entendent Dieu leur parler, mais ils ne font jamais rien. Dieu leur parle, révélation après révélation, révélation après révélation. Ils entendent la parole et au bout d'un moment, ils font ce qu'on appelle de la boulimie spirituelle. Ils ne bougent pas, ils deviennent obèses spirituellement. Et l'obésité, c'est quoi? C'est une maladie, non? Quand tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu grossis, grossis, grossis. Au bout d'un moment, tu es malade. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça, qui sont boulimiques spirituellement. Ils sont à l'église depuis longtemps, ils ont entendu beaucoup de choses, mais spirituellement, ils n'ont jamais évolué. Au bout d'un moment, ils arrivent à un état de sécheresse spirituelle où il n'y a plus rien qui passe. Amen. Troisièmement, celui qui est en Christ et qui ne grandit pas spirituellement est dans la désobéissance, car il désobéit à un commandement direct de Dieu qui est « soyez féconds ». Ne pas grandir, ne pas croître spirituellement, c'est être dans la désobéissance. Parce que le premier commandement que Dieu te donne quand tu viens à Christ, c'est « grandis, porte du fruit, sois fécond ». 4. Celui qui est en Christ et qui ne grandit pas spirituellement finit par être rejeté par Dieu. Il y a des chrétiens qui sont assis dans les églises, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà été rejetés. Saül, dans la Bible, était encore roi. Et il est resté roi pendant des années. Mais pourtant, Dieu l'avait rejeté. Il y a des gens qui te demandent, mais pasteur, comment se fait-il que même des pasteurs, même des serviteurs de Dieu sont dans le péché, mais pourtant, ils sont derrière le pupitre et continuent de prêcher la parole de Dieu. Ils sont dans le péché, ils prêchent la parole et ça touche les gens. Ça veut dire que Dieu les a toujours acceptés. Non, ils ont déjà été rejetés. Tu peux voir un serviteur de Dieu qui est derrière un pupitre, mais Dieu l'a déjà rejeté. Tu ne sais pas ça? Tu peux voir un chrétien qui, tu as l'impression qu'il brille, mais Dieu l'a déjà rejeté. Son temps est compté. Amen? Oui? Parce que spirituellement, Dieu l'a déjà rejeté. Et il n'y a pas pire quand Dieu te rejette. C'est pour cela que Jésus-Christ, à la croix, a crié « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il n'y avait pas pire châtiment pour Jésus-Christ d'être rejeté. Et c'est la pire des choses que Dieu pourrait faire à quelqu'un. Amen. Cinquièmement, celui qui est en Christ et qui ne grandit pas spirituellement finit par entrer dans un état de sécheresse spirituelle. Je l'ai déjà dit. Sixièmement, celui qui est en Christ et qui grandit... Non, je vais rajouter. Mais celui qui est en Christ, sixièmement... et qui grandit spirituellement est béni. Dis avec moi, il est béni. Il a la faveur de Dieu sur sa vie. Dis avec moi, il a la faveur. Oui. La première chose que l'on attire sur nous quand on grandit spirituellement, quand on arrive, quand on poursuit la maturité spirituelle, c'est la bénédiction. Il y a une grâce particulière sur les enfants de Dieu qui grandissent. Dieu veille sur ceux qui grandissent. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que tout sarment qui est en moi, au verset 1, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Un enfant de Dieu qui grandit spirituellement, qui croit spirituellement, il fait tellement plaisir à Dieu que Dieu veille sur lui pour qu'il grandisse encore plus. Parce que Dieu aime ça, de voir des enfants à lui qui grandissent, qui portent du fruit. Amen. 7. Celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement, sa prière est écoutée avec une grande attention devant le trône. Il peut demander ce qu'il veut. Dieu l'exauce. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et juste avant, il dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Si vous portez beaucoup de fruits, demandez ce que vous voulez. Demandez. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu, mais Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde leur vie ne rend pas gloire à Dieu. Il n'y a rien. Mais ils demandent des choses. Mais leur vie ne rend pas gloire à Dieu. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux entendre la parole de Dieu tous les jours. Mais si ta vie est une vie de sécheresse spirituelle où on ne voit aucun fruit, mon ami, tu montes, tu descends, Dieu ne donnera jamais rien. C'est pour ça que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes que celui qui désobéit à la parole de Dieu, même sa prière à Dieu est une abomination. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Donc il y a des gens qui ont une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, qui désobéissent à la parole de Dieu, qui déshonorent Dieu, mais ils osent élever la voix. Et Dieu dit, tu me bouches le nez. Tu n'as pas vu ça dans le livre de Jérémie et d'Ésaïe? Dieu dit, vos prières, quand vous priez, je me bouche les oreilles. Ceci, il est écrit dans le livre de Jérémie. Ah, Dieu a des paroles, je vous assure. Dieu dit ça aux prophètes. Va leur dire que quand ils prient, je me bouche les oreilles. Je t'apprends une chose aujourd'hui, Dieu peut se boucher les oreilles. Huit, celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement trouve ce que Jésus-Christ appelle la véritable joie, la joie parfaite. Car il n'y a pas de plus belle joie que de sentir qu'on a la grâce de Dieu sur nous quand on est en communion avec le Seigneur. 9, celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement est un vrai disciple de Jésus. Le vrai disciple de Jésus, on le voit quand il grandit. Et enfin, 10, celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement, Jésus-Christ dit qu'il glorifie Dieu sur la terre. Tu veux savoir comment glorifier Dieu sur la terre? Porte du fruit. C'est le principe que j'ai appelé le principe du potentiel. Tout ce que Dieu a déposé en toi, là, libère ça. Quand tu vois quelqu'un qui libère ses dons et ses talents, tout ce que Dieu a déposé en lui et qui est une grande source de bénédiction pour les gens qui sont autour de lui à cause de tout ce qu'il libère, à cause de tout ce qu'il fait, il glorifie Dieu sur la terre. Chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu des dons, des talents, nous avons reçu quelque chose. Chacun d'entre nous. Et si nous arrivons à découvrir nos dons et nos talents et à les libérer, ça peut être libéré au travers d'une entreprise, ça peut être libéré au travers d'un métier artistique, ça peut être libéré au travers, je ne sais pas, de n'importe quoi. Mais quand tu commences à libérer, non seulement tu trouves le chemin du bonheur, parce que tu t'épanouis dans ce qui sort de toi, mais en plus quand tu commences à être une source de bénédiction pour les autres, à faire du bien aux autres, alors là la Bible dit que tu commences à glorifier Dieu sur la terre. Amen. Ouais. Et le disciple mature de Jésus-Christ, voici ce à quoi il doit ressembler. Amen. Dis avec moi, je suis un disciple. Je suis un disciple. Ce message n'a qu'un seul objectif, c'est de nous faire comprendre, de susciter en nous une prise de conscience que l'on doit croître spirituellement, on doit grandir. L'Église, notre Église, la maison du bâtisseur, Dieu n'attend que ça, qu'on commence à se mettre en marche, qu'on commence à poser des actions. C'est ce qu'on verra certainement la semaine prochaine, qu'on commence à poser des actions pour croître spirituellement, sans cesse grandir, 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 grandir. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi tu es appelé à être demain. Amen. Ce n'est pas ce à quoi tu es appelé à être demain. Il ne faut pas te dire que tu vas rester comme ça. Jamais. Parce que ce que tu vois dans le miroir quand tu te mires le matin, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est peut-être que demain, tu es appelé à être un président de la République. La vérité, c'est peut-être que demain, tu es appelé à être un entrepreneur très important dans le pays. La vérité, c'est que peut-être demain, tu es appelé à être quelqu'un de très important au niveau international. Tu ne sais pas qui tu es appelé à être demain, si ce n'est peut-être au travers de la vision que tu as pour ta vie. Mais quand Dieu te regarde, toi tu peux voir un bébé, mais Dieu lui voit un grand homme. C'est pour ça que Jérémie dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, « Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. » Dieu dit, « Ne dis pas que tu es un enfant. Avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. » Toi tu vois un enfant, moi je vois un prophète. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Oui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu es là, tu marches, tu vois, tu traverses des situations difficiles, tu te plains, etc. Dieu dit, mais fils, qu'est-ce que tu vois? Amen. Et on va atterrir avec ça. On va atterrir. Il y a cinq choses qui caractérisent un disciple. Et on va approfondir ça la semaine prochaine. Cinq choses qui caractérisent un disciple que j'ai appelé les cinq piliers de la maturité spirituelle du disciple. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, c'est là. La première chose qui caractérise la vie d'un disciple, le premier pilier dans la vie d'un vrai disciple de Jésus-Christ, le tout premier pilier sur lequel un disciple de Jésus-Christ bâtit sa vie, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Oui, Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est la première chose qui doit animer la vie d'un disciple. La toute première chose. Un enfant de Dieu qui se lève le matin et qui n'a pas l'habitude de lire la parole, il a un souci. Parce que la parole, c'est ta lumière. La parole, c'est ce qui t'éclaire. La parole, c'est ce qui éclaire tes sentiers. Si tu te lèves le matin et que tu sais que dans la journée, tu dois prendre des décisions importantes et qui peuvent bouleverser ta vie, tu as besoin de sagesse. La méditation de la parole de Dieu est quelque chose de très important. Il y a des choses parfois que tu lis dans la Bible que tu ne comprends pas. Et tu es là, tu réfléchis dessus. C'est ce qu'on appelle méditer. C'est le premier pilier de la maturité spirituelle. Formation, maturité, deuxième niveau, c'est ce qu'on va voir dans le PCL, le processus de croissance du leader. Le deuxième niveau après les cours fondements, c'est les piliers de la maturité spirituelle. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. C'est le premier pilier sur lequel un disciple de Jésus-Christ bâtit sa vie, la parole de Dieu. Le deuxième pilier sur lequel le disciple de Jésus-Christ bâtit sa vie, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Tout disciple de Jésus-Christ doit avoir une vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, tu as un pilier manquant. Et si le pilier est manquant, tôt ou tard, le bâtiment va s'effondrer. Parce que quand le vent va souffler, s'il y a un pilier qui est instable, le bâtiment va s'effondrer. La prière est très importante. Luc 18, chapitre 18, au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Les amis, il faut toujours prier. Dis avec moi, il faut toujours prier. Il faut prier. Les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Oui, les gens ne prient pas parce qu'ils n'ont pas compris ce que veut dire la prière. Enseignement, la puissance de la prière, le secret de la réussite de Jésus qu'on a vu le mois dernier. Tout ce que tu dois faire, toute décision que tu dois prendre, toute association, tout engagement pour ta vie, tu dois prier. C'est le deuxième pilier de la vie d'un disciple. Le troisième pilier de la vie d'un disciple, c'est la communion permanente avec le Saint-Esprit. Dis avec moi la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. C'est quelqu'un de stratégique. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu vas avoir des soucis dans ta vie chrétienne. Il faut chercher tout le temps à être en communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit « Nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir et nous sommes transfigurés de gloire en gloire par son Esprit. » Amen. Le quatrième pilier de la vie d'un disciple de Jésus-Christ, c'est la paternité spirituelle. Dites-moi la paternité. Tout disciple doit avoir un père spirituel. Tout disciple de Jésus-Christ doit avoir un père spirituel. Les disciples de Jésus-Christ avaient comme père Jésus. Tu peux avoir comme père spirituel le pasteur de ton église, tout comme tu peux aussi avoir un père spirituel particulier. Quelqu'un qui est un modèle pour toi. Quelqu'un à qui tu veux ressembler. Quelqu'un qui peut te transmettre de la connaissance, des enseignements, des informations pour ta vie chrétienne. Amen. Et enfin, le cinquième pilier, c'est pour ça que par rapport à ce point-là, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. » Et enfin, le dernier pilier de la vie d'un disciple, certainement il y en a d'autres, oui, mais ici, le cinquième pilier, c'est les expériences de la vie. Dis avec moi les expériences de la vie. Oui, parce qu'au travers de la vie, Dieu va t'enseigner beaucoup de choses. Au travers des circonstances, des moments difficiles comme des bons moments, Dieu va t'enseigner beaucoup de choses. Et un disciple de Jésus-Christ doit savoir prendre ça en compte. La parole de Dieu, la vie de prière, la communion avec le Saint-Esprit, la paternité spirituelle, avoir un père spirituel et les expériences de la vie. Voici les cinq piliers de la vie d'un disciple de Jésus-Christ sur lesquels il doit bâtir. Et toi, ton travail, c'est de retenir ces cinq piliers-là et de les développer. Plus tu te développes, plus tu grandis spirituellement dans ces cinq piliers-là, plus tu vas voir ta vie va croître. Plus tu vas devenir fort. Plus tu vas devenir plus intelligent, plus tu vas comprendre des choses. Les cinq piliers de la maturité d'un disciple. Il y en a deux autres qu'on va rajouter dans l'enseignement, qui je crois avoir une bonne habitude en allant à l'église, et puis le septième, je ne sais plus. Amen. Mais ces cinq-là sont très importants. Gloire à Dieu. Donc, notre but, le but de Dieu, c'est de nous amener à la croissance spirituelle. Ce qui doit nous animer tous les jours, c'est de chercher à grandir et à être de bons disciples, des disciples exemplaires. C'est le prérequis d'un disciple exemplaire en Jésus-Christ. Chercher tout le temps à croître, à grandir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dis encore gloire à Dieu et acclamons le Seigneur. On va incliner la tête. Je voudrais que tu prennes quelques secondes pour prier et que tu puisses dire simplement, Seigneur, j'ai entendu ta parole et tu m'as encore enseigné pas mal de choses. Je ne prétends pas tout connaître, mais je te demande de m'aider. Je te demande de me conduire, de diriger mes pas pour que je puisse croître spirituellement. Parce que tu me montres au travers de ta parole combien il est important de grandir. Combien il est important, Seigneur, de croître spirituellement. La Bible nous dit que Jésus-Christ à 12 ans croissait en stature, en grâce et en sagesse. Accorde-moi la grâce de croître en stature, en grâce et en sagesse, de grandir spirituellement, de porter beaucoup de fruits. Parce que tu me montres que c'est un commandement très important, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Béni sois-tu encore pour ta parole, Seigneur, qui, Seigneur, éclaire, Seigneur, mon intelligence et m'amène à comprendre, Seigneur, ces principes ô combien importants, Seigneur, afin que je te sois agréable. Parce que celui qui croit spirituellement, celui qui grandit spirituellement, est celui qui t'est agréable, Seigneur. Celui qui ne grandit pas spirituellement est dans la désobéissance et je ne veux pas être dans la désobéissance. Celui qui ne grandit pas spirituellement t'est désagréable et je ne veux pas être désagréable à Dieu. Celui qui ne grandit pas spirituellement est rejeté par Dieu et je ne veux pas être rejeté par Dieu. Celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement, Seigneur, oh Dieu, il ne connaîtra pas la sécheresse spirituelle et je ne serai jamais dans la sécheresse spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce de croître spirituellement et d'être béni, d'attirer sur ma vie la faveur divine, Seigneur, parce à cause de la maturité spirituelle. Qu'à ta baptisons, la transformation de l'homme intérieur, la transformation du disciple, afin de faire de moi quelqu'un de parfait, afin que j'atteigne le perfectionnement à la stature parfaite de Christ. Celui qui est en Christ et qui grandit spirituellement trouve la véritable joie. Je veux avoir ta joie, non pas la joie que le monde donne, mais ta joie. Et pour pouvoir atteindre cette joie, il faut que je grandisse spirituellement. Il faut que j'augmente le vase que je suis, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'amènes là, tu m'accordes la grâce d'être, Seigneur, un véritable disciple de Jésus-Christ et qui te glorifie sur la terre, Seigneur. Merci pour les cinq piliers, Seigneur, de la maturité du disciple, Seigneur. La parole de Dieu, la prière, la communion avec le Saint-Esprit, la fraternité spirituelle, Seigneur, et les expériences de la vie. Accorde-moi la grâce de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. À toi soit la louange, à toi soit l'adoration, à toi soit l'honneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans ma vie et pour l'œuvre que tu as commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Nous t'avons prié avec action de grâce. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.